Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 6h, c'est l'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu et bonjour à tous.
À un an de la présidentielle, l'un des favoris sous enquête.
L'ancien Premier ministre Édouard Philippe pour des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme et de prise illégale d'intérêts. On vous explique cette affaire de subvention au Havre. Des premiers concerts de Patrick Bruel annulés, tous au Québec pour l'instant, après les accusations et les plaintes pour viol qui s'accumulent. Et le futur adversaire européen du PSG sur un nuage, Arsenal, sacré champion d'Angleterre, une première depuis 22 ans.
Le parquet national financier va s'attaquer à un dossier impliquant Édouard Philippe.
Un juge d'instruction a été désigné hier. Il est chargé de mener l'enquête sur un contrat conclu entre une association et la ville du Havre, dont l'ancien Premier ministre est maire. Association dirigée par l'une de ses proches. Le premier signalement date de 2024, mais c'est à un an de l'élection présidentielle que cette nouvelle étape de l'affaire intervient. Et c'est un caillou dans la chaussure du candidat Thomas Becker.
Oui, Édouard Philippe précise qu'il répondra à toutes les questions que posera la justice de façon très sereine. En toute sobriété, ça lui ressemble, glisse un de ses proches. Le favori du bloc central dans les sondages applique sa méthode, son style, ne rien laisser paraître, tracer sa route. Sauf qu'Édouard Philippe vient tout juste d'annoncer un grand meeting début juillet, censé marquer le début de sa dynamique vers l'Élysée. Alors forcément, son entourage en pleine opération, mobilisation, tente de déminer. Ce n'est qu'une poursuite automatique de la procédure. Sur le fond, il n'y a rien, affirme un cadre d'Horizon, un des membres de son équipe de campagne résume le triptyque qu'il anime, sérénité, calme, concentration. C'est avec ce caractère, assure-t-il, qu'Édouard Philippe avait déjà affronté la justice. Placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête sur la gestion du Covid, il avait finalement bénéficié d'un non-lieu.
Thomas Becker du service politique de RMC. C'est l'annonce de la nuit à l'étranger. Donald Trump sera bien présent au prochain sommet du G7 en France, prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin. Les dates ont leur importance. Ce sera le lendemain de l'anniversaire du président américain qui compte le fêter en grande pompe à la Maison Blanche. L'ambiance s'annonce tendue après l'épisode des hausses de droits de douane.
C'est le sujet sur lequel on vous fait réagir ce matin au 32-16. Les premiers concerts de Patrick Bruel déprogrammés à Québec.
Compte tenu du contexte actuel, pour citer les organisateurs, référence aux 12 plaintes en France pour viol et agression sexuelle qui ciblent le chanteur. Certaines, comme celle de l'animatrice Flavie Flamand, concernent des faits vieux de plus de 30 ans, au-delà donc des délais de prescription. Alors le chanteur pourra-t-il être jugé? C'est tout un pan du débat juridique qui s'ouvre, Constance Bostoen.
Corinne Herman, l'avocate de Flavie Flamand, l'assure, le viol que dénonce l'animatrice alors qu'elle n'avait que 16 ans ne devrait pas être prescrit.
Aujourd'hui, sur la plainte que nous avons déposée, on démontre que la prescription n'est pas acquise.
Pourtant, les faits remontent à 1991. Le délai de prescription prévu par la loi est donc normalement dépassé. Toutefois, il y a bien une exception dont pourrait bénéficier Flavie Flamand, à condition qu'une autre victime mineure porte plainte pour des faits non prescrits, comme l'explique Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris-Nanterre.
Une loi de 2021 a été intégrée dans le code de procédure pénale, ce que l'on appelle la prescription glissante, qui permet de récupérer les prescriptions les unes aux autres lorsqu'il y a des victimes mineures de faits qui ont été commis par un majeur. Donc ça permet effectivement de rallonger les prescriptions qui sont encore en cours lorsqu'on a une sérialité, mais sur des victimes mineures, qui n'est pas forcément le cas de l'intégralité, sauf erreur de ma part, des plaintes qui ont été déposées contre Patrick Bruel.
Ce sera donc au juge d'instruction d'apprécier si Patrick Bruel doit répondre ou non des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire.
Constance Bostoen du service police-justice de RMC. La nouvelle mouture de la loi de programmation militaire votée en première lecture à l'Assemblée hier, les députés ont approuvé une rallonge budgétaire de 36 milliards d'euros pour les armées jusqu'en 2030. Trop lente et trop brouillonne. Un rapport parlementaire fustige la gestion de la crise des laits contaminés, ces laits pour bébés dans lesquels une toxine dangereuse avait été détectée, provoquant des rappels en cascade en décembre dernier. Victor Jurer, ce rapport, il vise tout autant l'État que les industriels.
Oui, Nestlé est accusé d'avoir tardé à informer les autres industriels et les autorités françaises de la présence de cette bactérie identifiée mi-décembre. Les deux députés s'interrogent aussi sur le choix d'avoir attendu le résultat des analyses plutôt que de rappeler d'emblée l'ensemble des lots possiblement contaminés. Autre cible, les autorités sanitaires jugées elles aussi trop lentes à réagir avec près d'un mois avant le déclenchement de l'alerte sanitaire. 14 recommandations sont ainsi proposées dans le rapport pour éviter qu'une telle crise des laits infantiles se reproduise.
Un renforcement des contrôles, renforcer la législation.
Michel Lozana est député Renaissance et l'un des deux rapporteurs.
Se rapprocher au moins de celle des médicaments. C'est beaucoup plus strict sur les vaccins par exemple. Au moindre doute, on arrête la chaîne et on refait des analyses. Le lait infantile, pour le moment, c'est une législation purement alimentaire.
Les rapporteurs préconisent également de renforcer les critères de sélection des matières premières utilisées dans les laits infantiles et de rendre le site Rappel Conso plus lisible.
Victor Girard pour RMC. C'est une mobilisation citoyenne qui a provoqué le soulagement des parents à Grigny, dans l'Essonne, là où une fillette de 10 ans s'était volatilisée à la sortie de l'école lundi. Finalement retrouvée après des heures de recherche au beau milieu de la nuit et du 13e arrondissement de Paris, Antonin Audion.
Laura a enfin pu souffler hier, elle qui habite juste en face de chez la fillette.
On a été soulagés quand même. Ça a été le... Ça finit bien. On a eu peur, oui. Une petite de 10 ans toute seule dehors. Le principal, c'est qu'elle soit en vie et en bonne santé et qu'elle soit avec ses parents.
Alors qu'elle avait disparu depuis quelques heures la veille, une cinquantaine de voisins, comme Yvan et Didier, ont participé aux recherches.
C'est une fille qui a l'âge de ma petite sœur. Ils sont de la même école et de la même classe et tout. Je me dis, ça pourrait arriver à ma petite sœur.
On a regardé partout, tous les quartiers aux alentours. On essaie de partager les photos des recherches et tout.
La fillette est finalement retrouvée aux alentours de 2h du matin à 25 km de chez elle, notamment grâce à la solidarité et l'entraide, comme le salue le maire de Grigny, Philippe Rio.
La recherche humaine s'est déroulée avec une très forte mobilisation des forces de police et une mobilisation citoyenne absolument incroyable. De vieux, mais surtout de jeunes qui se sont mobilisés, qui se sont relayés jusqu'à 1h30, 2h du matin, tout en sachant qu'ils adaptaient aussi leur stratégie avec les policiers.
Une enquête judiciaire est en cours pour comprendre le parcours exact de la jeune fille cette nuit-là.
Le reportage d'Antonin Audion. La viande d'un homme est le poison d'un autre. Figurez-vous que c'est la version anglaise de notre « Le malheur des uns fait le bonheur des autres » et ça illustre l'épilogue de la Première Ligue en foot hier. Match nul, un partout entre Manchester City et Bournemouth hier soir. Et titre assuré pour Arsenal à Londres, le premier depuis 22 ans pour les Londoniens, futur adversaire de Paris en finale de la Ligue des Champions. Mais ça, ce sera après l'euphorie, Clément Brossard.
Il est moins de 22h hier soir quand le Tollington Arms, le pub des supporters d'Arsenal, explose. Les Gunners mettent fin à 22 ans de disette.
Je pourrais pas être plus heureux. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. C'est une folie de vivre ça avec mes frères, mes amis. Quelle nuit. Allez Arsenal!
Trois fois de suite deuxième du championnat, les fans en faisaient leur priorité.
Ça faisait trop longtemps. La Ligue des Champions sera fantastique, mais on avait besoin de remporter le championnat pour remettre le club dans la bonne direction.
Sur le parvis de l'Emirates Stadium, où des milliers de supporters se sont rassemblés jusqu'à tard dans la nuit, la confiance règne avant la finale de Ligue des Champions.
Ce titre de champion d'Angleterre est un poil plus important, mais là j'ai tellement hâte de vivre la finale de Ligue des Champions. On veut tout remporter, ce titre n'est que le début.
Eux qui n'ont jamais remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes sont prêts à vivre un moment d'histoire. En réalisant le doublé, le Paris Saint-Germain est prévenu.
Clément Brossard, l'envoyé spécial de RMC à Londres. La finale de la Ligue des Champions, vous le savez, ce sera le 30 mai et ce sera à suivre sur RMC.
La viande d'un homme est le poison d'un autre.
Et vous me demandez, si vous voulez d'autres expressions comme ça.
Ah ouais, moi je peux me recoucher.
C'est pas moi, c'est les Anglais.
Ça fait ma journée. Merci Victor Ponchet, il arrive comme ça avec son alacrité naturelle, avec ses citations de l'Académie française. Merci beaucoup, j'avais pas le choix de cette phrase. Merci Victor. Eric est en ligne avec nous dans le Var. Bonjour Eric.
Bonjour Eric.
Oui. Bonjour.
Eric, alors vous êtes producteur de rosé et vous êtes favorable à la consigne.
Alors, favorable à la consigne du verre, oui, pas forcément du plastique.
Pourquoi ?
Parce que cette consigne du plastique, c'est une demi-solution. Lorsque l'intérêt à agir est lié, ça c'est sûr, il faut diminuer l'usage du plastique unique. Et par contre, opérer la consigne sur du plastique... Ça va reposer sur qui ? Aujourd'hui, c'est sur les collectivités que ça repose, et pas sur le consommateur ou le producteur. Donc c'est là-dessus qu'il faut changer aussi les choses et s'y intéresser.
Ah, vous dites aujourd'hui, ça repose sur la collectivité. Ça dépend. Oui. Il y a quand même au niveau des impôts locaux la possibilité aussi de payer le ramassage. Et puis, les collectivités, elles le valorisent. Oui. Vous allez l'entendre ce matin dans nos sujets. Elles valorisent justement le traitement et le tri, la récolte. Du plastique. Et d'ailleurs, c'est celle qui freine le plus pour la consigne, parce qu'elle voit une manne financière qui pourrait leur échapper.
Non, c'est pas du tout une manne financière, la gestion du plastique. Très souvent, ça leur coûte en collectivité. Ça, moi, j'aimerais bien voir vos données là-dessus.
Bah écoutez, non mais je vais vous trouver des citations, pardon. Mais non mais c'est les collectivités elles-mêmes. Si ça leur coûtait tant que ça, elles seraient pas contre la consigne.
Ah non, elles sont obligées. Elles sont obligées de collecter, elles sont obligées de traiter les collectivités.
Oui.
Et la consigne, ça va encore reposer très souvent sur elles, sur la collectivité. Alors c'est le concitoyen, hein. Mais du coup le concitoyen, c'est pas forcément l'utilisateur ni le producteur.
Je vois pas pourquoi vous voulez que ça repose sur la collectivité, Eric. Ça peut être par les magasins. On avait l'exemple de l'Allemagne, par exemple. Ça se passe directement en magasin. Ça peut être par plein d'autres biais.
Aujourd'hui, le tri, c'est généralement les collectivités qui s'en occupent. La consigne au sein des magasins, là aussi, c'est très anecdotique en volume.
En tout cas, vous n'y croyez pas, Eric, très clairement.
La nécessité d'agir sur le sujet, oui, sur la consigne de la bouteille plastique, j'y crois pas. Il faut déjà standardiser. Il y a des tas de plastiques qui existent et dont on ne saura pas quoi faire non plus pour les refondre. Il faut aller sur le réemploi, ça c'est sûr. Il faut réutiliser les matières et c'est l'usage de plastique unique.
Au maximum, de toute façon. Et ça, c'est ce que dira notre invité à 6h40 tout à l'heure. Il y a quand même l'idée que la consigne, c'est pérenniser le plastique. Or, il faudra en sortir, nous disent-ils. Merci Eric d'avoir composé le 32-16 ce matin depuis le Var, producteur de rosé en direct. Le rosé, lui, dans des bouteilles en verre, cela va de soi. Merci beaucoup, Eric.
Il est 6h11 et ça y est, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde 2026. Vidéo, projecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus et même Babyfoot. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26. Vous envoyez dès maintenant liste au 7-32-16, liste au 7-32-16 et vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Bonjour Inès Zegloul.
Bonjour.
Inès, on l'a appris hier soir, des concerts de Patrick Bruel ont été annulés au Québec.
Ouais, mais en France, c'est l'embarras pour les organisateurs de festivals et aussi pour les fans.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h15, vous êtes sur RMC et RMC Story, vous avez fait le bon choix.
RMC, le choix de la rédaction.
Une trentaine de témoignages, au moins 12 plaintes en justice contre Patrick Bruel, 5 pour des faits de viol, dont celle de l'animatrice Flavie Flamand. Le chanteur nie les accusations, mais on a, ça y est, de premières annulations de concerts annoncées au Québec.
Bonjour Inès Zegloul.
Bonjour.
Des concerts annulés et certains fans qui commencent à se détourner de leur artiste fétiche.
Ouais, des fans divisés, même pour l'heure. Certains disent toujours soutenir le chanteur Patrick Bruel, qui continue de remplir les salles. On a pu le constater hier soir, notamment au théâtre Édouard VII à Paris, où il se produit en ce moment.
Pour l'instant, j'ai pas de raison de ne pas assister à la pièce tant qu'il n'a pas été entendu, tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice.
Je kiffe Patrick Bruel. J'ai pas réfléchi, j'avais mon billet et je comptais les jours. J'avais qu'une hâte, c'était d'être là.
Et à l'opposé, quand on va sur les pages de fans, sur les réseaux sociaux par exemple, on trouve aussi des internautes qui tentent de revendre leur place de spectacle. Je ne peux plus le regarder comme avant, commente l'une. Hors de question d'aller voir ce porc, écrit l'autre. Dominique, elle nous parle de boycott. La niçoise se décrit comme une admiratrice de la première heure. Elle a même des dédicaces de Patrick Bruel chez elle.
Et moi, je suis tombée dans la Bruelmania. J'ai raté aucune tournée, aucun concert. Il y a même des concerts que j'ai vus deux ou trois fois. J'en ai vu des dizaines, quoi. Je suis même pas capable de compter.
Et là, vous aviez prévu de retourner le voir?
Cet été, j'avais donc mes places pour aller voir à Saint-Laurent-du-Var. Et ensuite, au Nikaya, en octobre. Je vais pas y aller, hein. C'est pas possible, en fait.
Qu'est-ce qui est pas possible?
D'aller l'applaudir. C'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Parce que moi, toutes ces femmes, je les crois, hein. Tous nos souvenirs, en fait, qu'aujourd'hui, on a presque pas honte, mais pas loin, quoi, de se dire on a idolâtré ce gars. Moi, je suis dévastée de ce qui se passe là. C'est très, très difficile. C'est tellement dommage.
Dommage, c'est aussi ce que soufflent certains organisateurs de concerts cet été. Une dizaine de festivals s'étaient offerts les services de Patrick Bruel en Belgique, en Suisse, en France. Programmé depuis des mois, Bruel devait être une tête d'affiche, argument principal pour leur promotion. C'est désormais une malédiction, me soufflent certains.
Mais alors, est-ce que certains ont prévu d'annuler sa venue ?
Eh bien, 3 concerts annulés au Québec, ça on l'a dit, on l'a appris hier soir. Mais en France, eh bien, les organisateurs sont plus hésitants. On est pieds et poings liés, voilà ce que me répond Sophie, elle est responsable communication du festival Les Alpagas Bleus à Saverne.
Le plus simple, ce serait de déprogrammer. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui il existait une clause dans les contrats qui dit que dans ce genre de situation, on peut, oui, humainement, probablement qu'on l'aurait fait. Aujourd'hui, si on déprogramme, il faudra payer l'artiste et qu'en plus, il faut rembourser tous les gens qui voudront ne plus venir financièrement. Oui, c'est la remise en question de l'existence du festival même, quoi.
D'autres ont retourné le problème dans tous les sens. Ils tentent de trouver une faille juridique. On ne veut pas de lui sur notre scène, me disent-ils. Seule solution, dit Sophie.
Qu'il prenne la parole et qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il lui annule, je pense que ce sera plus simple pour tous les festivals, évidemment. Oui, financièrement, oui, c'est sûr.
À Nice, c'est un sponsor, un centre commercial local partenaire du Beach Sport Festival qui s'est retiré de l'événement.
Alors le chanteur qui entame ensuite sa tournée des 35 ans de l'album à leur regard dès le mois de juin, le mois prochain. Patrick Bruel reste donc programmé dans plus d'une quarantaine de villes jusqu'à la fin de l'année. Là.
Oui, pour l'instant, parmi les maires que j'ai pu joindre au téléphone, aucun ne s'oppose frontalement à la venue du chanteur à Dijon ou à Laval. Par exemple, on prône la liberté de programmation des salles de concert. Laissons faire la justice, présomption d'innocence, me répond-on à Vaison-la-Romaine ou à Salon en Provence, qui, eux, renvoient la balle aux producteurs de spectacles, qui, eux, avouent n'avoir jamais pensé à annuler, pas une seule seconde. Alors, les collectifs se mobilise Salon Féministe, par exemple, dont Mathilde est membre.
On ne veut pas divulguer les détails, mais on planifie des choses. Et puis, vraiment, c'est de perturber, de dire qu'on est là, continuer avec cette programmation. C'est indécent.
Une pétition a été lancée en ligne contre la tournée de Patrick Bruel. Près de 24 000 personnes l'ont déjà signée.
Merci beaucoup, Inès Zegloul. C'était le choix de la rédaction. Ça vous fait réagir. Vous avez peut-être des places, d'ailleurs, pour Patrick Bruel dans les semaines, dans les mois qui viennent. Si vous en aviez, vous feriez quoi aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez aller le voir sur scène, au théâtre, sur scène, en concert? On vous attend ce matin au 3216 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Il est 6h19.
Daniel César ce matin, petit prince de la néo-soul, vous pouvez appeler ça du R&B, quoi qu'il en soit, c'est la douceur absolue et on en a grand besoin. Bonne nouvelle, Daniel César va jouer à Paris en septembre prochain, les billets sont mis en vente ce matin. Ashton Simmons, de son vrai nom, a une histoire un peu particulière. Ce Canadien de 31 ans a été élevé à Toronto au rythme du gospel par un père chanteur d'église qui finira par le mettre à la rue, à la porte, à l'âge de 17 ans. À cause de ses choix musicaux, Daniel César va se retrouver à dormir dehors jusqu'à la revanche et ce premier classique Best Part en duo avec la chanteuse Her. Alors en réalité, Daniel César n'a jamais tourné le dos au gospel. On en a eu la confirmation avec son dernier album, Son of Spurgy, sorti en octobre dernier. Album qui marque d'ailleurs la réconciliation avec ses parents. Daniel César, ce sera le 9 septembre prochain à l'Adidas Arena. Mise en vente des places ce matin à 10h.
Ouais, c'est pour ça que je laisse. Non, on coupe pas n'importe qui, n'importe comment. Maintenant, c'est fait. Merci, Élise. Il est 6h21 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous, les trois grands titres de l'actualité.
À un nom de la présidentielle, Édouard Philippe, dans le viseur du parquet national financier, le maire du Havre est soupçonné de détournement de fonds publics. Un juge d'instruction va enquêter. C'est l'information de la nuit. Donald Trump qui va bien participer le mois prochain au G7 en France. La Maison-Blanche l'a confirmé. Sommet qui a été décalé pour que le président américain puisse fêter son anniversaire. Et puis des scènes de liesse hier soir à Londres, en Angleterre, pour célébrer le titre d'Arsenal qui a remporté le championnat d'Angleterre. 22 ans que ça n'était plus arrivé.
Il est 6h21 sur RMC et on est avec Aurel Guedj, le docteur du matin. De quoi est-ce qu'on parle, Aurel, ce matin?
Eh bien, ce matin, on va s'intéresser à un nouveau programme de dépistage du cancer du poumon qui a laissé, qui ça concerne et surtout, est-ce vraiment révolutionnaire?
À tout de suite sur RMC et RMC Story. Très bon réveil.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h24 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
RMC, consultation gratuite.
Aurel Guedj, plus de 50 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont diagnostiqués chaque année en France. Et c'est dans ce contexte qu'un nouveau programme de dépistage est testé. Alors, qui est concerné, docteur?
Eh bien, on a voulu faire simple, on a pris les populations à risque, donc les patients qui ont entre 50 et 74 ans et qui sont des fumeurs
actifs ou qui ont été des gros fumeurs. En gros, quand vous étiez à une moyenne de un paquet par jour pendant 20 ans, ou alors deux paquets par jour pendant 10 ans. À partir de ce moment-là, vous êtes éligible. Il y a 20 000 places. Vous pouvez vous inscrire sur le site Je fais mon dépistage du cancer du poumon. On vous fera un scanner et l'objectif, c'est de déceler de façon précoce des nodules qu'on pourrait voir, des boules qu'on pourrait voir au niveau du parenchyme pulmonaire. Puisque pour
parenchyme,
rappel.
Parenchyme, c'est quoi? C'est la paroi?
C'est, pardon, le tissu pulmonaire au niveau du poumon, tout simplement. On va chercher des boules, puisque il faut bien comprendre que l'âge médian de découverte des cancers du poumon pour l'homme c'est 66 ans, pour la femme c'est 68 ans, pardon, c'est l'inverse. Mais
c'est tard,
parce qu'il faut bien comprendre que plus un cancer est pris en charge tôt, meilleures sont ses chances de survie.
Alors ce dépistage, c'est quelque chose de nouveau?
Alors, en fait, il faut bien comprendre que le dépistage, le principal problème, c'est un problème d'argent. Hein. Ça coûte de l'argent de dépister. C'est dans les recommandations, il faut savoir que même pendant mes études, on nous disait déjà ça. On nous disait, si vous voyez un patient qui a 50 ans, qui est fumeur, n'hésitez pas à lui faire un scanner, mais c'était pas écrit formellement en disant c'est remboursé, etc. Alors que ça a bien été démontré que lorsque vous aviez, un suivi avec un dépistage tous les 2 ans pour des patients à risque, vous aviez une diminution de la mortalité de l'ordre de 7%. Donc ça a été réellement démontré. C'est juste que l'intérêt de ce programme pilote, c'est vraiment de montrer, regardez, ça marche. Oui, ça coûte de l'argent, mais ça permet d'éviter tant de cancers, ça permet de gagner tant d'années d'espérance de vie, puisque comme on a dit, c'est 50 000 cas par an, mais par rapport au nombre de fumeurs, un scanner, c'est à peu près 100 euros. C'est quand même un véritable coût pour la société. Donc, il faut être capable de le justifier pour dire, on est capable de prendre tout ça en charge.
Merci docteur. Nouveau dépistage du cancer du poumon pour les personnes âgées de 50 à 74 ans avec un terrain à profil. En tout cas, merci beaucoup Aurèle Gadji. Il est 6h27 sur RMC et François nous a rejoint pour jouer.
Bonjour François.
Bonjour tout le monde, bonjour
François,
l'équipe.
François, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous avez identifié le mot du jour? Le mot caché?
Oui, je pense, mais avant tout, je tiens à vous remercier pour votre bonne humeur et votre alacrité.
Très joli.
Bien vu.
Très joli, François, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, l'alacrité, la vivacité, l'enjouement,
l'entrain.
C'est nous quoi.
C'est sûr qu'on n'en manque pas.
François, on vous envoie la station météo Lacrosse Technologies. Vous l'avez gagné, vous l'avez mérité. La station météo, le leader français des données météo, station connectée que vous aurez chez vous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, Donald Trump en France le mois prochain.
Oui, confirmation. Depuis cette nuit, le président américain participera bien au sommet du G7 qui est prévu à Évian-les-Bains. Il va falloir s'habituer aux guerres. La situation au Moyen-Orient va durer. C'est ce que dit le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et on va vous raconter l'histoire de ce projet d'usine à 3000 emplois qui tombe à l'eau dans la région de Marseille.
Et c'est donc l'information de la nuit. Donald Trump participera bien au sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains à la mi-juin.
Oui, c'est la Maison-Blanche donc qui le confirme. Il y avait une réelle incertitude car son agenda est très chargé à ce moment-là. Et d'ailleurs, tout a été fait pour que le président américain soit là, Romain Hougue.
Oui, jusqu'au choix des dates de ce G7, du 15 au 17 juin. Pourquoi? Eh bien, Donald Trump n'est pas disponible le 14. C'est son anniversaire. Ce n'est pas une blague. Le président américain a prévu de fêter ses 80 ans en grande pompe à la Maison-Blanche. Le G7 commencera donc le lendemain. Et là, l'ambiance sera sûrement un peu moins à la fête. Les relations entre Donald Trump et les autres pays du G7 se sont détériorées ces derniers mois sur fond de droits de douane et de guerre en Iran. Donald Trump ne manquant jamais une occasion pour tacler ses partenaires européens sur le plan commercial, militaire ou diplomatique.
Alors la venue du président américain au sommet du G7, évidemment c'est un événement et ça s'accompagne, Romain, d'une sécurité monumentale et c'est même pas exagéré de dire ça.
Oui, il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2019 à Biarritz. C'est le dernier G7 organisé en France. Donald Trump était déjà présent pour sécuriser l'événement. Toute une partie de la ville complètement bouclée, 13 200 policiers et gendarmes mobilisés. 3 matchs de Ligue 1 avaient même été reportés pour libérer des effectifs. Les 3 corps de l'armée étaient aussi engagés avec tout un arsenal de défense. À Évian, dans un mois, ce sera la même chose. Une vaste zone ne sera accessible que sur présentation d'un pass G7. Certains établissements scolaires fermés, des lycéens vont même devoir passer des épreuves du bac dans une ville voisine. Mais aussi des lignes de train suspendues, une zone d'exclusion sur le lac Léman et même le scellage de toutes les bouches d'égout.
Voilà les infos ce matin avec avec Romain Houck pour RMC. Tiens, pendant ce temps, eh bien, c'est à Pékin que se déroule un nouveau sommet entre puissants, comme on a l'habitude de dire. Xi Jinping reçoit Vladimir Poutine avec le même cérémonial que pour Donald Trump il y a une semaine. Vladimir Poutine veut s'assurer, en fait, que la Chine ne lâche pas la Russie pour les États-Unis.
Et en toile de fond, il y a le contexte géopolitique auquel il va falloir s'habituer.
C'est en substance, oui, le message que fait passer le Premier ministre Sébastien Lecornu en évoquant la guerre au Moyen-Orient. Il dit que la situation va durer et que les guerres hybrides vont se multiplier, hein, Thomas Becker.
Oui, d'abord parce que la guerre dure et va durer. Sébastien Lecornu l'a rappelé alarmiste pour mieux souligner l'impact direct sur les finances publiques.
Je pense que les 6 milliards d'euros que nous avons documentés devront être remis à jour, évidemment. On y reviendra en transparence.
Hausse des taux d'intérêt, coût des opérations extérieures menées par les armées au Moyen-Orient, le gouvernement s'attend à une note salée qui n'était pas prévue dans le budget initial. À ce tableau noir s'ajoute l'inquiétude concernant la croissance. Le Premier ministre fait la liste des secteurs les plus touchés par l'inflation. Agriculture, logement, le plus à risque est celui de la chimie, assure-t-il. Dans ce contexte, le gouvernement présentera son paquet d'aide pour le mois de juin jeudi. Sébastien Lecornu a promis un changement d'échelle, plus de secteurs concernés, plus de moyens, mais des aides toujours ciblées, car dans ce contexte, le ministre de l'économie l'a rappelé, l'État n'est pas là pour aider tout le monde.
Et alors dans ce contexte, une méga usine de panneaux photovoltaïques était censée voir le jour dans la région de Marseille, à Fos-sur-Mer. Le projet avait été lancé il y a 4 ans, on en avait parlé à l'époque, 1,5 milliard d'euros d'investissement, 3000 emplois à la clé. Sauf que, eh bien, la méga-usine n'ouvrira pas. Victor Joannin, vous allez nous dire pourquoi. Pour RMC, la société française qui avait lancé ce projet vient d'être placée en liquidation judiciaire.
En cause, la concurrence écrasante des panneaux solaires chinois et l'incapacité de l'Europe à protéger sa filière naissante. Par exemple, si le Made in Europe est dorénavant obligatoire pour accéder au marché public, les panneaux solaires fabriqués dans les pays qui ont un accord commercial, comme le Vietnam, restent autorisés. Le manque de stabilité politique a joué aussi. 5 ministres de l'énergie différents en 4 ans. Et l'absence de soutien fort du gouvernement. Persifle à un bon connaisseur du dossier, autant d'incertitudes qui auront fini par dissuader les investisseurs. Amertume du fondateur du projet qui dit avoir tout tenté jusqu'au bout. Il y a à peine plus d'un an, encore plein d'espoir, il obtenait le permis de construire. La mise en service de cette méga-usine était prévue dès l'année prochaine, mais les plans resteront finalement dans les cartons.
C'est un caillou hein, dans la chaussure d'Edouard Philippe ce matin. On est à un an de l'élection présidentielle et le maire du Havre est soupçonné de détournement de fonds publics. On sait depuis hier soir qu'un juge d'instruction va enquêter à ce sujet. Les soupçons portent sur un contrat entre la ville du Havre, dont il est le maire, et une animation numérique. Contrat qui aurait profité à une proche, une adjointe d'Edouard Philippe, des faits qu'il conteste depuis le début. Il y a du nouveau dans l'affaire Patrick Bruel ce matin. Vous savez qu'il est accusé de violences sexuelles, les violences qu'il conteste par une trentaine de femmes. Trois concerts prévus en décembre sont annulés au Canada, compte tenu du contexte et de l'impossibilité d'assurer la promotion. Voilà ce qu'expliquent les organisateurs là-bas au Québec.
Et certains messages qui commencent à dénoncer une cabale contre Patrick Bruel qui rappelle sa présomption d'innocence alors qu'on parle ce matin de ces annulations de concerts au Canada, des producteurs de spectacles, que ce soit théâtre ou musique en France. Faut-il annuler? Est-ce que lui doit renoncer? Et si vous aviez des billets, est-ce que vous iriez? Vous nous le dites ce matin. On vous attend au 3216 et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Il est 6h35 sur RMC et c'est aussi la question qu'on vous pose ce matin. Comment vous faites quand vous êtes malade? Les délais pour avoir un rendez-vous chez le médecin restent très longs d'après la dernière étude de Doctolib.
Oui, 32 jours pour un dermato, 42 jours pour un cardiologue. Dans près de la moitié des départements, une hausse des délais médians a même été enregistrée entre 2023 et 2025. Et près des deux tiers des Français ont même renoncé à aller consulter un médecin au cours des 12 derniers mois. Bref, dans certaines régions, avoir un rendez-vous chez le médecin, ça relève du petit miracle, nous dit Philippine Boulet.
Violette souffre depuis 6 ans d'une maladie qui nécessite un suivi. Pour prendre rendez-vous avec son médecin traitant, elle ouvre l'application Doctolib.
Prendre rendez-vous au cabinet.
Sur son écran, les dates défilent.
Je suis déjà au mois de juin.
Jusqu'au premier créneau libre.
16 juin.
Presque un mois d'attente, Violette a l'habitude. Maintenant, en cas de besoin, elle se dirige vers les urgences.
Il y a un service de consultation sans rendez-vous. Après, c'est une attente d'urgence, mais on est pris le jour même.
Faute de rendez-vous assez rapide, Marouane a déjà renoncé à consulter.
J'ai travaillé en étant malade. Hein. De toute façon, t'as pas de choix, t'as pas de rendez-vous. Et tu sais que ton employeur, il a besoin d'un justificatif.
Ce ne sont pas des exceptions. Selon Doctolib, un tiers des consultations chez un généraliste nécessite au moins une semaine d'attente. C'est un problème aussi pour les médecins, comme Patricia Lefébure, présidente de la Fédération des médecins de France.
De dire aux patients, je ne peux pas vous recevoir, allez aux urgences, on sait très bien que ça n'est pas une bonne solution. Ça coûte extrêmement cher, 250 euros, un passage aux urgences, en moyenne, entre 30 euros dans une consultation médicale.
Selon elle, pour réduire les délais d'attente, il faudrait davantage inciter les jeunes médecins à s'installer dans les zones les plus en tension.
la question des déserts médicaux. 3 jours pour voir un généraliste, c'est le niveau médian. La moitié, c'est moins, la moitié, c'est plus. Mais 42 jours pour le cardiologue. On a eu 2 mois, 2 ans. Je bug à chaque fois parce que j'ai du mal à y croire. Ce matin, un témoignage d'Aurélien en Auvergne. 2 ans pour avoir un rendez-vous chez le dermato. C'est comment chez vous? Vous nous le dites au 32-16 ce matin. On parle des déserts médicaux.
On en reparlera dans un petit instant dans la causerie, mais c'était la fête, sachez-le, hein, dans les rues de Londres hier soir, même une partie de la nuit. Pourquoi? Parce qu'Arsenal est devenu champion d'Angleterre dans la soirée en profitant en fait du match nul de son rival Manchester City. Ça faisait 22 ans que les Gunners attendaient ça. Et puis il y aura la première finale européenne de la saison ce soir, celle de la Ligue Europa entre Fribourg et Aston Villa avec Lucas Digne, notamment le défenseur chez les Anglais.
Le Quintet Quentin, c'est au Croisé-la-Roche aujourd'hui.
Il est 13h50, c'est le Grand National du Trot. Le 9, le 2, ce sont les pronos de la Dream Team des courses RMC. Le 9 en favori, Carambar. Et le 2 en outsider, Joy du Carnois.
Merci beaucoup Quentin Vinet, c'était le journal. Il est 6h37 sur RMC, RMC Story. On est ensemble pour le morning jusqu'à 7h, l'arrivée d'Apo pour Apolline Matin. Et je vois déjà Sophie et Émilie qui vont intervenir dans un instant. Mais avec notre invité, puisqu'on va parler de la consigne plastique.
Oui, la France recycle seulement 23% de ses bouteilles plastiques. Emmanuel Macron veut relancer la consigne. Bonjour Camille Wolf.
Bonjour.
De l'association No Plastic in My City. Alors est-ce que c'est vraiment la solution? Vous nous répondez dans un instant.
Et puis elle est là, la bande du morning, Virginie Fulpin pour la causerie.
On en parlait il y a un instant, un temps que les moins de 22 ans ne pouvaient pas connaître jusqu'à hier soir. Arsenal est donc champion d'Angleterre.
Et regardez comme elle est contente. Allumez RMC Story ce matin, ça vaut le coup. Vous écoutez à la radio. Ça fait 22 ans que j'entends Virginie attendre ça. Arthur Asquin, c'est déjà demain.
Un petit boîtier pour soulager ceux qui ont vu Arsenal gagner en 2004, le résident d'EHPAD.
Merci.
Il est 6h38, à tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h41 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
Emmanuel Macron a relancé mardi l'idée d'une consigne sur les bouteilles plastiques, des bacs en supermarché pour récupérer les bouteilles usagées contre quelques centimes. Les collectivités locales s'y opposent déjà fermement. Alors qu'en pensent les défenseurs de l'environnement?
Bonjour Camille Wolf.
Bonjour.
Vous êtes chargée des campagnes de réduction des plastiques pour l'association No Plastic in My Sea. Pas de plastique dans ma mer, dans l'océan. Emmanuel Macron qui veut relancer les consignes. Vous dites qu'on prend le problème par le mauvais bout.
Oui, très spécifiquement, parce que là, on parle d'une consigne sur les bouteilles en plastique. Il faut se dire que la consigne, on peut la faire de plein de manières différentes. Spontanément, on pense à celle sur les bouteilles en verre, et ça, c'est une super idée, parce que c'est du réemploi, ça permet de réduire la quantité de plastique qu'on utilise. Là, on parle de consigne pour recycler les bouteilles plastiques, ce qui n'a jamais permis de réduire notre consommation de plastique. Donc effectivement, je pense qu'on prend le problème par le mauvais bout, parce qu'on est censé réduire, nous, déjà, les bouteilles qu'on utilise, et ça, ça ne va pas le permettre.
On va accueillir Émilie au 32-16 justement qui parlait de consigne en verre.
Bonjour Émilie.
Bonjour.
Émilie, vous nous dites que la consigne c'est mieux pour le verre.
Oui, parce que c'est recyclable à vie.
Chez vous, il y a un système de consigne, Émilie, ou vous connaissez ce système-là?
Pour le plastique, oui, mais moi je suis plus pour le verre.
Oui, vous ne l'avez pas pour le verre aujourd'hui?
Non, parce que non, ça ne déforme pas le goût des boissons. Oui.
Ah, parce que pour vous, le plastique, c'est aussi une question du goût de l'eau. Vous achetez de l'eau en bouteille en plastique, vous, Émilie?
Non, j'évite.
Vous évitez? Moi, j'ai juste un problème. Je voulais poser la question à Camille Wolf quand même. Merci, Émilie. Le problème de la consigne et des bouteilles en verre, c'est le réchauffement climatique. C'est qu'on consomme énormément d'essence pour transporter du verre par rapport au plastique.
Mais c'est aussi pour ça que la consigne, elle doit se faire de manière intelligente. On va parler de boucle locale. L'idée, c'est évidemment pas de faire traverser à votre bouteille la France de bout en bout pour la laver, la re-remplir. Mais là, il y a une opportunité qui est intéressante. C'est qu'il y a des milliers d'emplois à créer qui sont locaux, non délocalisables, sur ces boucles de réemploi qui ont un besoin cruel de soutien. On voyait une entreprise Usage, là, qui faisait du lavage, qui a fermé pas plus tard que la semaine dernière. C'est 4 centres de lavage qui ferment parce qu'on n'a pas avancé assez vite sur les objectifs que la loi nous donne.
Il y a une expérimentation en cours sur la consigne de verre. Ça donne quoi? On en est où?
On devrait avoir des éléments de résultats bientôt, puisqu'on va arriver au premier anniversaire de cette expérimentation. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on est encore très loin de ce qu'on devrait atteindre en termes d'objectifs d'emballage réemployé. Dans la loi AGEC, on avait ces objectifs de 5% en 2023, 10% en 2027. Les derniers chiffres sont plutôt en dessous de 2% et pas majoritairement sur les emballages qui sont censés être concernés.
Alors on va accueillir à présent Sophie au 32-16. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Est-ce que vous, près de chez vous, il y a un système de consigne qui est mis en place?
Alors, pour les bouteilles en plastique, on a un magasin qui n'est pas trop près de la maison, mais qui on met les bouteilles dans une machine et on peut racheter des bouteilles d'eau plastique, bien sûr, dans leur magasin. Alors, c'est un petit pas, mais c'est déjà ça, plutôt que de trouver les bouteilles dans toute la nature.
Vous le faites, vous?
Bah oui, moi j'essaye de trier le maximum pour éviter de produire des déchets. Donc c'est pas la bonne solution, mais c'est une solution.
Si et puis on c'est, donne c'est un peu bon d'achat en plus, ça vous, oui voilà, voilà, ça vous incite.
Et peut-être que les gens joueront le jeu. De toute façon, nous, il faut être un peu des ânes. Hein. Si on n'a pas la carotte pour avancer, on n'avance pas. Donc c'est une des solutions. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faudrait pas utiliser le plastique, mais on n'a pas le choix. Donc si on peut faire un premier geste.
On n'a pas le choix.
Sophie, elle a un peu raison, non?
Bah moi ce que je retiens surtout, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle a pas le choix. On lui propose rien d'autre et il est là le problème. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir des millions d'euros pour traiter des déchets qu'on est censé supprimer. Donc on va investir de l'argent pour des déchets qui ne devraient pas exister, alors que cet argent, on pourrait l'investir dans des solutions de réemploi qui permettraient de proposer des alternatives, tout comme on vient d'entendre. Il manque.
Alors, Camille Wolf, je voudrais vous entendre sur un point que vous avez évoqué au tout début de l'interview. Le verre, vous disiez, c'est du vrai réemploi. Le plastique, ça ne l'est pas forcément. Ça veut dire qu'en fait, quand on recycle la bouteille en plastique, on n'est pas capable aujourd'hui de la réutiliser comme on réutilise le verre consigné.
Alors, il faut savoir que quand on recycle du plastique de manière générale, dépendamment des matériaux, on le fait plus ou moins bien parce que tous ne se recyclent pas aussi bien. Il faut aussi savoir que contrairement à du verre, on a besoin de réinjecter de la matière vierge pour pouvoir obtenir un objet qui soit réutilisable similaire à celui qu'on a acheté. Donc ce modèle de recyclage, il entretient en fait le principe du tout jetable. On n'est pas sur une boucle qui permet d'avoir déjà plus de rotation avec du verre et surtout qui se contente de la matière sans avoir besoin d'ajouts supplémentaires.
Donc aujourd'hui, c'est sans dire que c'est un mensonge, c'est pas complètement vrai quand on parle de recyclage, quand on parle de tri, quand on parle de la bouteille en plastique qu'on met dans la bonne poubelle et qu'on s'imagine recycler intégralement, c'est une illusion.
C'est plus compliqué que ça, et ce qu'il faut vraiment retenir là par rapport aux annonces qui ont été faites ce matin, hier, c'est que l'objectif annoncé qui est de réduire notre addiction au plastique ne correspond pas aux moyens qui est mis en face. La consigne sur les bouteilles plastiques ne réduira pas notre dépendance au plastique.
En plus, l'échéance, elle est très lointaine. On parle de 2030, donc on va passer beaucoup de temps pour pas grand-chose à l'arrivée, quoi.
Bah, effectivement, moi, je rappelle qu'on a d'autres objectifs qu'on a depuis plus longtemps, hein, sur la réduction des bouteilles, sur lesquels j'aurais aimé voir le même zèle et le même engagement du gouvernement. Si on s'était tenu à ces objectifs-là, oui, on ne serait pas face à cette situation.
Parce que vous dites, cet objectif, il ne sera pas rempli en passant par la consigne. Mais pourquoi est-ce qu'on nous balade, alors? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire de consigne qui, en plus, je me mets à la place de nos auditeurs, intuitivement, on se dit que c'est une bonne idée, que ça va dans le bon sens. Là, vous dites que c'est faire du bruit pour pas grand-chose.
Bah, en tout cas, c'est faire du bruit pour...
Parce que, pardon, en plus de ça, il faut y croire, hein. Ce que dit Emmanuel Macron, ça fait 15 ans qu'on a des débats sur la consigne, 15 ans qu'on nous dit on va solliciter, on va analyser, on va étudier, et puis que ça n'arrive pas non plus en bout de chaîne.
Bah, en tout cas, moi ce que je sais, c'est que cette proposition-là ne touche pas au volume des industriels, ne demande pas de changement de pratique, reste sur ce qui est le plus simple, mais sans effet. Donc nous, on demande à ce que le gouvernement se saisisse enfin sérieusement du sujet et qu'il aille vers une solution qui permette de traiter la dépendance au plastique qu'on a de manière sérieuse, en réduisant l'utilisation qu'on en fait.
Alors, on a des exemples à l'étranger. On a parlé ce matin de l'Allemagne. On a Eddy au 32-16 qui veut nous parler de la Finlande. Bonjour, Eddy.
Bonjour.
Eddy, la consigne, ça fonctionne bien en Finlande?
Ben, ça fonctionne très, très bien. Il y a les mêmes systèmes que pour les bouteilles plastiques qu'on a en France, où on met les bouteilles plastiques, on récupère un bon d'achat, ça nous permet de faire des courses. Les bouteilles en verre, par exemple, elles sont toutes consignées là-bas. Vous voulez acheter, je prends un exemple, un pack de bière, bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut y aller mollo.
On fait le message sanitaire en route, Eddy, en plus.
Vous achetez une caisse complète, au fait, de bouteilles de verre, vous la ramenez au magasin, hop, et ben, vous récupérez la consigne, ça fonctionne comme ça. Et pour l'aluminium, pareil, tes canettes, vous avez les mêmes machines que pour les bouteilles plastiques. Donc vous les mettez dans ces machines-là, dans les supermarchés, et ça vous fait également un bon d'achat.
Et vous récupérez en consigne, et puis comme en général, on rachète le même liquide, on en a besoin, on refait le plein de courses. Après, la Finlande, pour l'avoir vu aussi, le local poubelle hein, d'un Airbnb, c'est 9 poubelles. Hein. Le tri sélectif, c'est, oui. Il y a le verre vert, il y a le verre brun, il y a le verre transparent, il y a le...
on n'est pas prêt pour cette transition-là. Mais là, encore une fois, on parle de verre, d'aluminium. Il y a d'autres matières qui seraient plus intéressantes si on doit réfléchir à la consigne.
Alors, en tout cas, sur les bouteilles, aujourd'hui, le verre, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'aller voir aussi loin qu'en Finlande. Hein. En Alsace, typiquement, on a gardé des systèmes de consigne qui fonctionnent encore très bien. Et on voit que ça donne des résultats intéressants. Hein. On peut trouver des bouteilles en verre, donc de bière ou d'eau, qui sont jusqu'à 20% moins chères que leur version en plastique jetable. Parce qu'on a préservé ces chaînes industrielles. Et ben, nous, on demande des investissements pour les restaurer, en fait. Ça a existé en France à un moment.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Camille Wolf de No Plastic in My Sea d'être venu nous parler de cette idée Emmanuel Macron qui veut relancer la consigne plastique. Fausse bonne idée. C'est ce que vous nous dites ce matin en direct sur RMC. Merci à tous nos auditeurs. Je pense à Eddy, à Sophie, à Émilie qui sont intervenus. On est dans votre consommation, dans vos courses. C'est pour ça que ça vous a inspiré nombreux et nombreuses. Il est 6h49. Les trois grands titres de l'actualité, Élise.
Deux premiers concerts de Patrick Bruel annulés, tous au Québec pour l'instant, après les accusations et les plaintes pour viol qui s'accumulent. À un an de la présidentielle, l'un des favoris sous enquête, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, enquête pour des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme et de prise illégale d'intérêt. Et puis le futur adversaire européen du PSG sur un nuage, Arsenal, sacré champion d'Angleterre, une première depuis 22 ans.
Et il est 6h50, justement, la bande est là.
C'est ce qu'on appelle une passe décisive, non ?
Arthur est prêt, ouais. C'est exactement peut-être. Ça. On peut y aller. Passe en profondeur même pour Virginie Fulpin, qui a encore de la voix ce matin, c'est déjà la première surprise.
Et qui a un grand sourire, puisqu'on le disait...
Oh, voilà, j'ai la victoire silencieuse.
C'est le champion d'Angleterre que le Paris Saint-Germain va affronter en finale de Ligue des Champions. Arsenal sacré hier soir pour la première fois depuis 22 ans. C'est retour vers le futur ce matin.
Allez, je vous emmène dans ma... DeLorean 2004, le dernier titre de champion d'Angleterre d'Arsenal. Tony Blair était le premier ministre britannique. Mark Zuckerberg était encore à l'université d'Harvard à l'époque. Il venait de créer un nouveau truc qui s'appelait Facebook. La Grèce remportait l'euro. Et Vladimir Poutine était... Ça marche pas pour faire le retour vers le futur. Désolé. Bref, l'attente des supporters d'Arsenal a été longue, très longue, depuis Thierry Henry et Patrick Vieira.
22 ans qu'on attendait ça. Pardon pour le langage, mais putain, on l'a mérité.
Je pourrais pas être plus heureux. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. C'est une folie de vivre ça avec mes frères, mes amis. Quelle nuit. Allez Arsenal.
Ils vont pas avoir beaucoup de voix ce matin à la machine à café, mais au moins on va plus les traiter de losers.
Arsenal, champion d'Angleterre. Virginie, est-ce que c'est bon ou mauvais pour le PSG qui doit affronter Arsenal, rappelons-le, le 30 mai prochain en finale de Ligue des Champions?
La question à 10 millions d'euros, ça c'est la différence de gains financiers entre le vainqueur et le finaliste de la compétition. Je vais vous faire une réponse de Normand. Il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon, c'est qu'Arsenal peut être un petit peu démobilisé. L'objectif ultime des Londoniens au début de la saison, c'était ce titre de champion d'Angleterre. La Ligue des Champions, honnêtement, ils n'y pensaient même pas. Donc leur saison est déjà réussie. Merci, au revoir.
Oui. Voilà, merci, au revoir.
Mais là, ils vont arriver le 30 mai à Budapest avec confiance gonflée à bloc et rien à perdre, justement, parce que leur saison est déjà réussie. Donc je vous laisse choisir entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein.
Bon, ce qui est sûr, c'est que le PSG fait plus envie qu'Arsenal.
Vous savez que même en Angleterre, à part dans le quartier du nord de Londres où évolue Arsenal, partout ailleurs, on préfère le PSG. Il y a quelques jours, il y a eu un sondage sur les réseaux sociaux qui a sacré Arsenal club le plus détesté du royaume. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut ce sondage, hein, mais force est de constater que les Gunners ne déclenchent pas l'hystérie collective. Oui, leur jeu est moche, il est basé sur la défense, ça se termine souvent par une victoire 1-0 avec un but sur un coup de pied arrêté aux antipodes du PSG. Plus enthousiasmant.
Non, mais même du Thierry Henry d'une belle époque.
Oui, voilà, ça, on peut dire ça. Mais le boring ans, Arsenal, c'était le cas encore avant. Même l'entraîneur Mikel Arteta, il agace absolument tout le monde parce qu'il s'agite beaucoup en bord de touche. Il a des discours insipides qui font passer ceux de Didier Deschamps pour du stand-up. Bref, le Paris Saint-Germain sera le favori des cœurs et des bookmakers en finale. Bon, bah, reste à pas perdre 1-0 sur un corner moche contre le cours du jeu. Ça, on verra.
Vous serez là pour nous en reparler.
je n'y file pas, évidemment. On va rentrer dans une phase compte à rebours. Arsenal, PSG, les deux champions, chacun dans leur pays. Merci Virginie. Il est
6h53. Et c'est l'heure de.
Arthur Asquin, pensez déjà demain.
Pensez déjà demain.
Chips.
Tu peux y aller tout seul si tu veux. Dans nos maisons de retraite, l'intelligence artificielle.
Dans
ouais, 46. L'intelligence artificielle commence à veiller sur la santé des résidents, des personnes âgées en permanence. Comment ça fonctionne, Arthur?
Alors, c'est dans un EHPAD à Rennes. 196 chambres sont équipées d'un petit boîtier blanc qui ressemble à un thermostat, mais à l'intérieur, il y a un micro et une IA acoustique qui veille au grain. Elle s'appelle ARI, A-R-I. Le boîtier capte en fait les sons de la chambre, les envoie en 10 secondes à un serveur. L'intelligence artificielle fait le tri entre un ronflement banal, une chute ou une détresse respiratoire et elle alerte directement le téléphone des soignants. Pas de bracelet à porter, pas de bouton à presser.
Mais attendez, les résidents, ils acceptent d'être écoutés en permanence?
Alors, c'est absolument pas un mouchard. La start-up brestoise Aurieco a passé un an à rassurer et entraîner ses algorithmes. Des équipes ont labellisé des centaines de sons et étouffement, vomissement, chute, pour éviter les fausses alertes et faux positifs. Résultat, il y a un taux d'acceptation de 8,5 sur 10 chez les résidents. C'est supérieur aux bracelets ou colliers d'alerte classiques. Les soignants, eux, ils se sentent moins seuls, moins démunis la nuit, notamment. Les familles, elles sont rassurées. Alors, ARI est aujourd'hui installé dans 105 établissements en France, 5000 chambres. C'est pris en charge par les agences régionales de santé et les EHPAD. Mais ça fonctionne aussi à domicile pour le maintien des seniors chez eux le plus longtemps possible. Là, il faut compter quand même 150 € par mois d'abonnement.
Merci, mais si ça sauve des vies, si ça rassure tout le monde. Merci beaucoup Arthur Asquin, c'est déjà demain la tech avec vous le matin. Elle est arrivée en studio. Bonjour Apo.
Salut Apo.
Salut tout le monde. Bah justement, on va rester sur les questions de santé parce qu'on va parler de l'état de nos hôpitaux dans un instant. On se pose la question ce matin de l'état de nos hôpitaux alors que le gouvernement annonce 6 milliards d'investissements supplémentaires, des bâtiments vieillissants, des équipes sous l'eau. Vous êtes soignant, vous êtes médecin, vous êtes infirmier ou alors vous êtes tout simplement patient, soigné ou vous avez été soigné à l'hôpital. Venez témoigner, venez me raconter au 3216 votre quotidien, les difficultés auxquelles vous faites face. Je vous attends non seulement au téléphone, le 3216, ou sur le WhatsApp d'AMC 0612 424 424. A tout de suite pour Apolline le matin.
5-7, le Morning RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC et RMC Story. C'était un gigantesque projet qui devait relancer une filière et l'emploi dans les Bouches-du-Rhône, une méga-usine de panneaux solaires à Fos-sur-Mer et elle ne verra finalement pas le jour. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise française Carbone hier. Bonjour Jules Nissen.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Merci d'être sur RMC ce matin. 3000 emplois directs perdus, 1,5 milliard d'investissements qui ne se feront pas. Pour vous, ce projet, il paye l'indécision de la politique énergétique française et de la politique industrielle européenne.
Oui, c'est vraiment ces deux dimensions. Je vais peut-être commencer par la dimension européenne, parce que la France a quand même essayé de soutenir l'idée de réindustrialiser des filières à partir d'une notion qui est le « made in Europe », le fabriqué en Europe, avec une approche territoriale. Un produit fait en Europe, c'est un produit qui est fait sur le territoire de l'Union européenne. C'est le combat qu'a mené Stéphane Séjourné auprès de la Commission, mais la proposition qu'a mis la Commission sur la table, c'est une proposition finalement d'accord industriel qui inclut dans la zone géographique aussi des pays qui ont un accord commercial avec l'Union européenne.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir l'appellation Made in Europe
sur un produit fabriqué au Vietnam, oui.
Sur un produit fabriqué au Vietnam.
Ça peut paraître assez étonnant, mais c'est comme ça. Je pense que l'idée est de préserver un peu de libre échange et de pas complètement fermer.
Ça veut dire quoi? Attendez.
Ça veut dire
les pays avec lesquels on a un accord de libre échange peuvent être considérés comme du Made in Europe?
Je pense que l'appellation Made in Europe, c'est une concession qui a été faite à la France. Ça s'appelle objectivement pas du Made in Europe comme ça. Alors pour l'instant, c'est pas une décision qui a été adoptée finalement par l'Union européenne, mais c'est la proposition qui a été mise sur la table.
Ça montre l'état d'esprit.
Ça montre l'état d'esprit qui signifie qu'on veut pas complètement fermer, qu'on a du mal en Europe à faire ce que font malheureusement les autres grandes zones économiques du monde, c'est-à-dire dans un certain nombre de filières considérées comme stratégiques, de dire la priorité, c'est de réserver les marchés publics et les commandes publiques finalement à des productions qui sont sur le territoire européen.
Vous me dites même, il faut du protectionnisme. Les États-Unis le font, la Chine le fait, on est les dindons de la farce.
Oui, moi je le regrette un peu parce que le système précédent avait aussi ses avantages, mais aujourd'hui on vit dans un monde où la vocation des forts est de dévorer les faibles. Et je pense pas que l'Union européenne, qui est un des plus grands marchés économiques du monde, ait la vocation d'être faible. La difficulté, c'est qu'elle est composée d'une mosaïque d'États qui ont des intérêts parfois divergents, et on voit bien qu'il y a une grande difficulté à assumer maintenant une politique industrielle qui vient à l'intérieur des frontières, même si ça progresse quand même petit à petit.
Mais est-ce que ça veut dire que ce qui s'est passé à Fos-sur-Mer pour vous est le symptôme, effectivement, de cette incapacité à prendre des décisions en fonction aussi de ce qui se passe désormais dans le monde? Parce que vous le dites, c'était pas forcément souhaitable ce protectionnisme, mais quitte à ce que les autres le fassent, on ne peut pas se retrouver à être ceux qui sont mangés.
Bah, je pense que c'est dangereux. Alors, les panneaux solaires qui représentent quand même la filière énergétique de demain, ils sont aujourd'hui produits en une très grande majorité en Chine, plus de 80%. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut, en Europe, reconstruire une filière de panneaux solaires? Pas forcément pour servir toute la demande, mais au moins pour être capable d'avoir une base de sécurité au cas où il y a une difficulté. Souvenez-vous ce qui s'est passé à l'époque du Covid avec le Doliprane, par exemple. Donc, pour faire ça, pour que des entreprises qui n'ont pas le savoir-faire aujourd'hui puissent se développer, bien, il faut bien qu'elles bénéficient d'un marché protégé pendant un certain temps. Et puis ensuite, la concurrence fonctionnera, il n'y aura pas de sujet. Et c'est ça qu'il faut assumer de vouloir faire. C'est d'ailleurs les réflexions en cours sur les batteries, sur l'automobile, et puis sur les panneaux solaires. J'ai l'impression parfois qu'à Bruxelles, on considère pas que c'est particulièrement stratégique de ré-européaniser la filière par rapport à un autre argument qui est celui de la compétitivité de l'énergie et donc essayer d'avoir les panneaux les moins chers possibles. C'est ça qu'on paye aujourd'hui.
Il y a un mot pourtant que les politiques ont souvent à la bouche désormais, et d'ailleurs ça dépasse tous les clivages, c'est le mot de souveraineté. On nous parle de souveraineté alimentaire, on nous parle de souveraineté en matière de santé, vous venez de mentionner le Doliprane et la vente effectivement d'une partie de Sanofi. La souveraineté industriel aujourd'hui, est-ce que vous considérez que c'est un combat perdu ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est un combat indispensable. Et moi, je voudrais quand même souligner que le gouvernement français, et ça depuis longtemps, je sais que vous interrogerez Bruno Le Maire tout à l'heure.
Exactement,
il a été un porteur de cette politique. Et moi, j'ai rien à dire à ça. La difficulté, c'est que c'est compliqué de faire une politique industrielle à l'échelle de la seule France, dans la mesure où il y a des règlements liés au droit de la concurrence qui sont établis à l'échelle européenne. Donc, il faut qu'on gagne cette bataille à l'échelle de l'Union européenne. Après, la question des panneaux solaires, c'est un sujet un peu spécifique. Mais je regrette qu'on en arrive là. C'est vraiment dommage.
C'est fichu.
Moi, je suis pas à la place de Pierre-Emmanuel Martin, que je tiens à saluer.
C'était à la tête de l'entreprise.
La décision qu'il a dû prendre est vraiment difficile parce que il a fait ça avec un esprit d'entreprise. Dans un pays où on regrette parfois qu'on soit pas suffisamment industriel, il a misé beaucoup d'argent personnel, il a réuni des investisseurs pour faire ça. C'est un projet territorial aussi, sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer, très soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par son président, Renaud Muselier. Et voilà, il y avait beaucoup de dynamique derrière. Bon, finalement, ça fonctionne pas parce que, au fond, le porteur de projet maîtrise pas tous les paramètres. Et donc, notamment, cet enjeu européen fait que finalement, les actionnaires qui ont dû se poser la question de se dire, mais si finalement, moi, je peux utiliser dans un appel d'offres public des panneaux qui sont fabriqués au Vietnam ou en Inde.
Pourquoi est-ce que j'irais choisir?
Ça existe déjà. Pourquoi est-ce que je viendrais en faire ici? Donc ça, c'est un premier mauvais coup. Et après, il y en a un second. C'est que pour pouvoir vendre des panneaux solaires, il faut qu'il y ait des gens qui installent des installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires. Et en premier lieu, dans le pays où l'usine va s'installer. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, on tombe sur les aléas de la politique énergétique française. On a eu 5 ministres en 4 ans. Et c'est compliqué d'avoir une politique qui essaie d'être un
c'est
peu...
C'est difficile de planifier quand on...
Là, c'est très difficile. Alors, Sébastien Lecornu a décidé de publier une programmation pluriannuelle de l'énergie. Je salue cette décision, mais c'est avec 2 ans de retard. Alors, c'est pas sa faute à lui, puisqu'il était pas aux affaires avant. Mais comment vous voulez avoir une politique énergétique un peu structurée avec ça? Et du coup, une politique industrielle derrière qui est la conséquence de cette politique énergétique.
Merci. Merci de votre alerte que vous lancez ce matin, Jules Nissen. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. Merci d'être venu sur RMC ce matin.
Merci.
Il est 7h20. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Pauline.
Dans les rues de Rio, des Brésiliens qui ont célébré la sélection de la star Neymar pour la Coupe du Monde.
Oui, l'affaire a pris une tournure exceptionnelle dans ce pays dingue de foot. Et figurez-vous, Apolline, que même le président brésilien s'en est mêlé.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y a Arnaud Demanche aussi qui arrive pour pirater l'interview du face-à-face. Ce sera Bruno Le Maire, vous l'avez entendu. Ne bougez pas, il est 7h21, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.